Imaginons un instant un scénario assez précis. On a les supercalculateurs les plus puissants de la planète.
Ouais, les dernières générations, quoi.
Exactement. Ils sont couplés à une imagerie satellitaire d'une précision vraiment redoutable. Et avec ça, on peut anticiper une crue dévastatrice à la minute près.
La technologie parfaite, en somme.
Voilà, la technologie fonctionne à la perfection. Et pourtant, et c'est là que c'est glaçant, 3000 personnes meurent balayées par les eaux.
Ah ouais?
Et pour une raison atrocement banale, en fait. L'alerte d'évacuation, bah, elle n'a jamais été traduite dans le dialecte local.
C'est vraiment le paradoxe mortel par excellence.
Totalement terrifiant. Et c'est ce paradoxe qu'on va disséquer aujourd'hui. Notre exploration nous plonge pour cette session au cœur de l'édition de juillet 2026 du magazine L'OGI Week.
Le numéro 137, il me semble, non?
C'est bien ça, le 137. Et on a là plus de 60 pages d'actualité d'une densité, enfin, vraiment remarquable. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire le nectar intellectuel de tous ces documents.
Ouais, on a du pain sur la planche, du coup.
On va tracer une ligne directrice en partant des nouvelles stratégies de puissance de l'État marocain jusqu'au vrai séisme géopolitique qui redessine littéralement les cartes du monde.
Et le paysage dépeint par cette 70aine de pages, bah, c'est celui d'une mutation globale fulgurante, hein. En lisant ces sources, on constate que la nature même du pouvoir est en train de basculer complètement.
C'est-à-dire?
Bah, on a d'un côté des frontières virtuelles et technologiques qui se dressent pour protéger des nations, et en même temps on a des frontières physiques, vieilles de plusieurs siècles, qui sont carrément rayées de la carte par pur pragmatisme économique.
Ce qui est quand même fou quand on y pense, hein.
Complètement fou. Et le fil conducteur de cette analyse, finalement, c'est la capacité d'un État, quel qu'il soit d'ailleurs, à survivre et à s'adapter face à des chocs pour lesquels, ben, les vieux manuels de géopolitique n'ont juste plus aucune réponse.
Ouais, le logiciel a changé. Mais avant d'entrer dans la mécanique complexe de ces chocs, c'est hyper intéressant de noter comment cette adaptation étatique s'accompagne d'un phénomène beaucoup plus subtil.
Presque pop culturel, non?
Exactement, ouais.
Ouais.
Les sources rapportent que le Maroc traverse une période de rayonnement international assez inédit en ce moment.
Au cinéma notamment.
Ouais, le pays crève l'écran à l'échelle mondiale, avec le succès colossal au box-office du film L'Odyssée de Christopher Nolan, qui met vraiment la nation à l'honneur. Et sur un tout autre registre.
La danse.
Voilà. Le Maroc a raflé sa toute première médaille d'or à la Dance World Cup 2026. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est vraiment l'illustration parfaite d'une nation qui s'exporte en fait.
Mais c'est pas du tout anecdotique, c'est même l'essence du soft power, cette fameuse capacité de séduction diplomatique.
C'est clair.
Quand un pays gagne en visibilité culturelle positive, que ce soit par le cinéma ou le sport, bah, ça facilite considérablement l'acceptation de ses ambitions économiques et politiques sur la scène internationale.
La séduction prépare le terrain à la négociation, quoi.
Toujours.
Cette négociation, elle porte aujourd'hui sur un changement radical de définition. C'est vraiment le premier grand axe de notre exploration, la redéfinition de la notion de souveraineté. Parce que si on feuillette un peu les archives d'il y a 20 ans, on s'aperçoit que la puissance d'un État en développement, ça se mesurait surtout en tonnes de béton coulé, en kilomètres d'autoroute ou en barrage, quoi.
Le bon vieux hardware.
C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, le rapport mentionne Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et des Lots, qui présente le pôle tech.
Ah oui, cette nouvelle structure dédiée à la transition technologique.
Oui, et l'annonce est super limpide, hein. L'intelligence artificielle, les modèles de simulation, les données massives, tout ça, c'est officiellement classé comme des instruments de souveraineté.
C'est un vrai virage. L'objectif, c'est plus juste d'acheter des licences logicielles étrangères, c'est de forger son propre savoir technologique en interne.
Le changement de paradigme est total. Pendant des décennies, la doctrine économique pour les pays émergents, c'était surtout de séduire l'investisseur étranger.
Pour qu'il apporte sa technologie dans ses valises, ouais.
Voilà. Sauf que les crises récentes ont prouvé que la dépendance technologique, c'est une vulnérabilité mortelle.
En fait, créer ce pôle tech, c'est intégrer que la donnée, c'est le nouveau territoire national. Et un territoire, ben, ça se défend.
D'où la frénésie sécuritaire et diplomatique qu'on retrouve partout dans ce numéro. D'un côté, on a Rabat, qui accueille l'AMFS 2026.
Le sommet des forces maritimes africaines.
C'est ça, en partenariat avec la marine américaine, pour endiguer la piraterie et la pêche illégale. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, l'information cruciale, elle se situe sous la surface de l'eau.
Les câbles sous-marins.
Exactement. Le magazine rapporte des discussions intenses entre Rabat et Berlin autour du câble sous-marin Silat Atlantique.
Alors là, il faut bien comprendre la mécanique derrière un projet comme ça. Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais 99% du trafic Internet mondial, et donc des flux financiers, ça transite par ces fameux câbles sous-marins.
Et pas du tout par satellite, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Mais non, pas du tout. En s'alliant avec Berlin pour sécuriser ce corridor de données, l'État s'assure que son économie numérique puisse pas être débranchée par un acteur hostile.
Ouais, maîtriser ses eaux territoriales, c'est bien, mais maîtriser l'infrastructure qui relie son propre système bancaire au reste du monde, c'est juste vital.
Vital, c'est le mot.
Mais du coup, bon, la théorie de cette nouvelle puissance est fascinante, mais quand on regarde l'économie réelle, le tableau est beaucoup plus contrasté.
Ah bah, c'est souvent le cas.
Ouais. Le Wali de Banque Al-Maghrib, Abdelatif Jouhari, a dévoilé le rapport annuel 2025. Sur le papier, les indicateurs macroéconomiques sont ouverts. On parle d'une croissance de 4,9%, ce qui est en hausse par rapport aux 4,4% de 2024.
C'est solide.
Et le grand moteur de cette dynamique, ça reste l'investissement massif de l'État, on est d'accord ?
Tout à fait.
Mais le rapport met le doigt sur une faille, enfin, assez douloureuse. Cette croissance, elle ne ruisselle pas.
Ouais, le fameux problème de la redistribution.
C'est ça, elle n'impacte ni le niveau de vie global de la population, ni la création massive d'emplois.
Ce qui est quand même le but ultime de l'économie.
Ben oui. L'image qui me vient à l'esprit en lisant ça, c'est comme si le pays avait construit une autoroute à 10 voies, super rutilante, avec des péages ultra modernes.
Mais sans les voitures pour rouler dessus.
C'est exactement ça. La grande majorité des citoyens n'a tout simplement pas de voiture pour y rouler.
Ton image illustre parfaitement la nature de cette croissance. L'État a investi massivement dans des infrastructures lourdes, ce qui fait gonfler le PIB, évidemment.
Sur le papier, c'est beau.
C'est beau, mais ces chantiers y créent pas suffisamment d'emplois durables à haute valeur ajoutée. Et ce chômage structurel que pointe le rapport, c'est une véritable bombe à retardement social.
Et c'est précisément pour transformer cette macroéconomie abstraite en salaire tangible que des mécanismes correctifs doivent être déployés, non ?
Absolument.
D'ailleurs, le magazine détaille l'un de ces mécanismes, le programme Power Export, chapeauté par le secrétaire d'État Omar Ejira.
Alors, ça donne quoi en chiffres ?
Eh bien, sur 400 candidatures de PME, ils ont validé 100 dossiers. Et le cahier des charges pour 2025-2027 est super ambitieux. Ils veulent générer 80 milliards de dirhams de chiffre d'affaires additionnel à l'export.
80 milliards, rien que ça.
Ouais, et faire émerger 400 nouveaux exportateurs chaque année. Mais surtout, le point clé, c'est la création de 76 000 emplois directs.
D'accord.
Mais la question que je me pose, au-delà de ces grands chiffres, comment un dispositif comme celui-là permet réellement de mettre ces fameuses voitures entre les mains des citoyens au quotidien ?
En fait, le mécanisme, il est presque chirurgical. Historiquement, une PME locale, elle hésite à exporter, parce qu'elle se heurte à un vrai mur de complexité.
Ouais, les normes, les douanes.
Voilà, les normes douanières étrangères, le besoin de financement spécifique, les études de marché qui sont souvent inaccessibles trop chères.
Du coup, elle reste sur le marché intérieur.
Exactement. Et là, Power Export intervient comme une sorte d'exosquelette pour ces entreprises. Ça absorbe une partie de ses risques et de ses coûts.
D'accord, je vois.
Et la logique est simple. Si une PME marocaine réussit à s'implanter sur de nouveaux marchés internationaux, elle est mécaniquement obligée d'augmenter sa production.
Et qui dit augmentation de production dit...
Dit embauche locale. C'est vraiment par la conquête de parts de marché à l'étranger qu'on finance la création d'emplois sur le territoire national. C'est ça qui permet, au final, de distribuer la richesse.
C'est super clair. Mais bon, cette ambition de conquête économique, elle nécessite aussi un cadre institutionnel capable de suivre le rythme, on est d'accord ?
Ah ben, ça va de pair, oui.
Et ça nous amène à observer une révolution silencieuse et parfois même violente du droit. Les sources soulignent une avancée qui est présentée comme historique.
La loi 3524 ?
C'est ça. À compter du 1er juillet 2028, grâce à cette loi organique, le Maroc va activer l'exception d'inconstitutionnalité.
C'est énorme, ça.
Pour être clair, ça donne à chaque citoyen l'équivalent d'un frein d'urgence sur un train législatif. Si quelqu'un estime qu'une loi en vigueur viole ses libertés fondamentales, il n'a plus besoin d'attendre que les politiciens daignent la modifier.
Il peut agir directement.
Voilà, il pourra tirer le signal d'alarme directement devant un juge pour demander son annulation.
Cette bascule juridique, ça change la nature même du rapport de force, en fait. C'est vraiment le passage d'une justice administrée à une véritable justice constitutionnelle, citoyenne.
Et conférer ce pouvoir aux individus, c'est la marque de fabrique des systèmes juridiques les plus matures. Ça empêche tout simplement la tyrannie de la majorité parlementaire.
Alors là, je dois m'inscrire en faux contre cette vision un peu idéalisée.
Ah bon ?
Ouais, Parce que quand on lit le rapport de force actuel décrit par notre source, on frôle la paralysie pure et simple. On nous parle d'un système hyper mature pour 2028, mais aujourd'hui, l'Association des barreaux du Maroc est en grève totale.
Oui, la fameuse grève des avocats. C'est pas juste une petite grève, hein. Ils ont suspendu toutes leurs audiences, y compris l'assistance judiciaire aux plus démunis, pour bloquer un projet de loi sur leur profession. Ils dénoncent un passage en force, sans aucune concertation, qui menacerait leur indépendance.
C'est très tendu, effectivement.
Et c'est pas fini. Hassan Tariq, le médiateur du royaume, indique que ses propres bureaux sont littéralement submergés.
En termes de plaintes?
Oui. 1918 plaintes contre le ministère de l'Intérieur et 1421 contre la justice. C'est quand même difficile de parler de maturité quand l'appareil judiciaire est à l'arrêt complet, non ? Comment on peut justifier une telle fracture ?
En fait, la fracture, elle est le produit direct de la vitesse de la réforme.
C'est-à-dire que ça va trop vite.
L'État a décidé d'imposer la modernisation à marche forcée pour rattraper son retard. Et inévitablement, ça crée un choc frontal avec les corps intermédiaires comme les avocats qui ont leurs propres traditions, leurs propres équilibres de pouvoir.
Donc c'est pas juste de simples dysfonctionnements.
Non, c'est vraiment la friction brutale entre un vieux logiciel administratif et la volonté politique d'installer un système 2.0. Et d'ailleurs, on le voit bien, cette volonté de réguler au forceps, elle passe de plus en plus par la technologie.
C'est vrai, le digital s'impose comme le nouveau gendarme. Le magazine cite l'exemple de la réforme des auto-écoles.
Oui, j'ai vu ça, ça m'a surpris.
C'est radical. Ils exigent désormais une caution de 100 000 dirhams, avec carrément l'intégration de l'intelligence artificielle directement dans les véhicules lors des examens pratiques.
Plus d'examinateur humain qui peut fermer les yeux, du coup.
Voilà. Et on voit la même logique avec ce partenariat inédit entre la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, le bras financier de l'État, et le ministère public. Le but ?
Pister numériquement la moindre anomalie dans les transactions des notaires.
Tout est tracé.
Absolument. Et on retrouve cette approche punitive chez BLS International, le prestataire de visa, qui durcit ses algorithmes pour bloquer les robots informatiques qui accaparent tous les rendez-vous. En fait, la machine semble devenir la seule solution pour discipliner des marchés qui sont devenus incontrôlables.
C'est une démarche ultra révélatrice. L'État n'utilise pas l'IA par simple fascination pour le gadget technologique, hein. Il l'utilise vraiment pour nettoyer des secteurs devenus chroniquement opaques ou anarchiques.
C'est clair. Structures précaires ou frauduleuses. Confier l'évaluation de la conduite à une IA, ça éradique le biais humain. Et donc, la corruption potentielle. En fait, c'est la technologie utilisée comme un vrai outil de salubrité publique.
Et ce qui est intéressant, c'est que cet assainissement, il n'a pas du tout l'air d'effrayer le grand capital international.
Au contraire, j'ai envie de dire.
Le magazine souligne qu'en dépit de toutes ces frictions réglementaires, le marché local reste ultra attractif. On a l'exemple de Tractafric Motors qui vient d'inaugurer un showroom titanesque à Marrakech pour introduire JWM et Zeekr.
Les géants chinois de la voiture électrique, oui.
Du haut de gamme en plus. Et leurs investissements confirment un truc universel. Tant que la consommation suit cette fameuse croissance de 4,9%, les investisseurs acceptent volontiers les turbulences réglementaires.
Le capital mondial, on le sait, il a horreur de l'incertitude. Mais par contre, il s'adapte très très bien à la régulation stricte, surtout quand il s'agit de se positionner en premier sur le marché émergent de la mobilité verte en Afrique.
C'est logique. Mais du coup, cette redéfinition des règles internes, ça nous pousse inévitablement à regarder un peu au-delà des frontières, là où le concept même d'État et de normes est en train de se disloquer totalement.
Les exemples internationaux dans ce numéro sont assez frappants.
Ouais, l'édition de Julier dresse un tableau fascinant de ce qu'ils appellent la souveraineté asymétrique.
Prenons l'Europe pour commencer.
Oui, un accord post-Brexit historique a pris effet le 15 juillet 2026. La frontière physique terrestre, celle qui séparait le territoire britannique de Gibraltar et la ville espagnole de la Línea de la Conception, elle a purement et simplement été effacée.
C'est fou. Sur le plan de la théorie politique, c'est un acte majeur.
Mais comment ça marche en pratique ?
Eh bien, les États ont transféré les contrôles douaniers et migratoires directement au port et à l'aéroport de Gibraltar. Ça permet même d'ouvrir des lignes aériennes directes avec l'Union européenne. L'objectif, il est 100% pragmatique. Sauver le quotidien de 15 000 travailleurs transfrontaliers.
Donc, on a une frontière vieille de 3 siècles qui disparaît au profit de la fluidité économique ?
C'est ça.
Mais... Et le contraste est saisissant à l'autre bout du monde, au Nicaragua, c'est la démocratie entière qui est gommée. Le régime de Daniel Ortega et de son épouse Rosario Murillo a officialisé ce qu'ils appellent une coprésidence conjugale.
Une coprésidence conjugale. C'est d'un cynisme incroyable.
C'est le moins qu'on puisse dire. Transformer littéralement un État en entreprise familiale. Et pour parachever le tout, ils ont annoncé le 20 juillet l'annulation pure et simple des élections présidentielles qui devaient se tenir en 2027.
C'est glaçant quand on pense à l'histoire de ce pays.
Ouais, ce régime qui est né de la révolution sandiniste de 1979, pour, je le rappelle, renverser une dictature, il assume aujourd'hui sa métamorphose en une autocratie fermée à double tour.
En fait, la comparaison entre Gibraltar et le Nicaragua, elle illustre parfaitement ce concept de souveraineté asymétrique. D'un côté, on a des États européens qui sont suffisamment puissants et en confiance pour comprendre que céder un morceau de souveraineté territoriale, bah, ça génère de la prospérité économique.
Oui, ils lâchent du lest pour gagner au change.
Voilà. Et de l'autre, le Nicaragua montre l'effondrement paroxystique d'un régime qui, terrifié par l'alternance politique, bah, se recroqueville. En annulant les élections, l'État ne montre pas sa force, il avoue sa fragilité existentielle.
C'est un aveu de faiblesse totale. Et lorsque cette fragilité étatique touche carrément le domaine sécuritaire, là, les répercussions sont sanglantes.
Le Sahel ?
Exactement. La revue consacre des pages très alarmantes à la situation là-bas. L'Alliance des États du Sahel, qui, pour rappel, a volontairement claqué la porte de la CDEAO, subit en ce moment des pertes dévastatrices. Les chiffres sont hyper lourds.
Qu'est-ce que disent les sources ?
En l'espace d'un seul week-end, 50 militaires maliens et 16 soldats nigériens ont été abattus par des groupes terroristes.
C'est terrible. Et c'est là que l'illusion stratégique se brise sur la réalité du terrain. L'Alliance des États du Sahel pensait reconquérir sa pleine souveraineté en rejetant l'intégration régionale de la CDAO.
Alors que la CDAO offrait quoi, concrètement ?
Bah, elle offrait un cadre de renseignement partagé, une pression diplomatique unifiée. Or, face à des nébuleuses djihadistes qui se moquent éperdument des tracés frontaliers, le repli nationaliste est juste suicidaire. La souveraineté, ça se décrète pas par un beau discours à la télé, ça se mesure à la capacité de contrôler son territoire, c'est tout.
Et ce retour de boomerang géopolitique, on le ressent jusqu'au Moyen-Orient d'ailleurs. Hein. Le magazine rapporte l'arrestation en Syrie d'un ancien haut gradé de l'armée de Bachar al-Assad.
Ah oui, présenté comme l'un des concepteurs du programme d'armes chimiques, c'est ça ?
C'est bien lui. Et cette capture, ça relance la complexe machine de la justice internationale autour des crimes de guerre syriens. Ça nous rappelle que l'impunité totale n'est jamais définitivement acquise.
Tous ces soubresauts, ça montre un monde profondément instable. Mais, et c'est peut-être le plus inquiétant, la nature, elle, n'attend pas que les humains règlent leurs petits conflits politiques pour frapper.
C'est sûr. Les menaces asymétriques, elles ne sont plus seulement le fait de groupes armés. Les bouleversements climatiques redessinent les frontières de la survie humaine avec une violence inédite, forçant l'appareil d'État à innover dans l'urgence.
Le rapport 2025 de l'Organisation météorologique mondiale est, à ce titre, une lecture assez effroyable.
Oui, les chiffres donnent le vertige. Sur le seul continent africain, 13 millions d'individus ont été impactés par des événements climatiques extrêmes. Plus de 3000 personnes ont perdu la vie, en grande majorité noyées dans des crues soudaines.
Et au nord, c'est le bassin méditerranéen qui brûle.
L'Espagne a vu 120 000 hectares de forêt partir en fumée. Et ce bilan, il a tout bonnement doublé en seulement 14 jours.
Les destructions en Europe sont colossales, c'est vrai. Mais le bilan humain en Afrique révèle une défaillance systémique bien plus profonde que la simple colère de la nature. Il révèle vraiment les limites du déploiement technologique.
Et ça nous ramène exactement à la sidération de notre point de départ. Le document indique, je cite, « une bonne prévision ne suffit pas ». Comment on peut tolérer, avec les milliards investis dans les satellites et les supercalculateurs, que l'information n'atteigne jamais les victimes ?
C'est le maillon faible.
Le système d'alerte tombe dans le vide juste parce que le message d'évacuation est envoyé dans une langue administrative incompréhensible pour les populations rurales qui voient littéralement l'eau monter devant chez eux. L'outil technologique est parfait, mais son application humaine, c'est un désastre.
C'est l'illustration tragique de ce que les ingénieurs appellent le paradoxe du dernier kilomètre.
C'est-à-dire en gros ?
En gros, les données météorologiques ultra précises sont générées, elles sont stockées dans des ministères ou analysées par des entités similaires au fameux Poltec dont on parlait.
Ok.
Mais la donnée brute, elle n'a aucune valeur vitale intrinsèque. Si ce signal ne se métamorphose pas en une directive claire, compréhensible et culturellement adaptée au moment de toucher le citoyen le plus isolé, bah, la chaîne de survie est brisée. L'oubli de ce dernier kilomètre humain transforme la technologie en un gadget totalement inutile face à la mort.
C'est dur, mais c'est tellement vrai. Et cette absence dramatique d'empathie institutionnelle, elle contraste douloureusement avec les tragédies individuelles évoquées dans la fin du magazine.
Oui, il y a ce récit bouleversant concernant Abderrahim Fakir.
Un ressortissant marocain de 42 ans, oui. Il a perdu la vie à Bologne, en Italie, à la suite d'une interpellation policière extrêmement virulente. Il a été maintenu plaqué au sol pendant de longues minutes.
Une affaire tragique.
Pendant que la justice italienne mène l'enquête, les sources soulignent la mobilisation immédiate de l'ambassade marocaine pour soutenir la famille. Et c'est précisément dans ce type de drame que l'appareil d'État doit prouver qu'il est capable de faire primer l'humain et la dignité.
Et le déploiement de cette diplomatie de la compassion, on l'observe aussi à l'échelle continentale. Le magazine mentionne la présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Accra.
Oui, et l'ordre du jour n'était pas militaire pour le coup, mais sanitaire.
Exactement. L'objectif était de bâtir une stratégie commune pour éradiquer le sida comme menace de santé publique d'ici 2030. C'est l'État protecteur en action face à des menaces qui ignorent totalement les frontières.
Protéger les corps, c'est une urgence absolue. Mais il faut aussi protéger l'esprit face à un monde qui perd clairement ses repères. Pour conclure ce tour d'horizon, le magazine présente le programme Nostalgia.
Ah oui, déployé sur le site de la Casbah d'Agadir Oufella.
C'est ça. Et l'initiative s'éloigne vraiment des musées poussiéreux. Il s'agit de transformer des sites archéologiques en de véritables scènes immersives. On part de 3 représentations quotidiennes qui mêlent des jeux de lumière spectaculaires et des reconstitutions théâtrales en direct.
Et l'objectif ?
Le but avoué, c'est de reconnecter viscéralement la jeunesse au patrimoine matériel et immatériel du pays.
Et c'est là que la boucle est bouclée. La mécanique conceptuelle de Nostalgia, elle répond très exactement au paradoxe du dernier kilomètre dont on parlait pour les crues climatiques.
Ah oui ? Comment ça ?
Placer une plaque explicative avec du texte sur une ruine, c'est exactement comme envoyer un SMS d'alerte météo dans une langue étrangère. L'information est là, factuellement, mais le public cible ici, la jeunesse, ne la capte pas.
Ouais, ça glisse sur eux.
Pour transmettre la mémoire historique, il faut la traduire dans le langage de l'émotion et de l'interactivité. La donnée historique, si elle n'est pas mise en scène et rendue vivante, elle s'évapore.
C'est un point de bascule intellectuel saisissant. En parcourant toutes ces pages aujourd'hui, on a traversé un paysage où des algorithmes d'intelligence artificielle sont missionnés pour sanctionner des fraudes dans les auto-écoles.
Ou des gouvernements rayent des frontières de la carte, comme à Gibraltar, pour fluidifier les capitaux.
Et où des États se barricadent, comme au Nicaragua. Mais au bout du compte, que ce soit pour échapper aux inondations ou pour se souvenir de qui l'on est, à la Casbah d'Agadir, l'outil technologique le plus sophistiqué échoue invariablement s'il est dépourvu de communication humaine et d'empathie.
Et ça impose une ultime interrogation assez vertigineuse d'ailleurs sur la trajectoire de nos sociétés. La vision moderne de la souveraineté, à l'image du pôle tech LabMEMA, postule que la data et l'intelligence artificielle piloteront bientôt, de façon autonome, la logistique de nos vies.
Des visas aux alertes climatiques, en passant par le réseau électrique.
Voilà. Mais si la machine prend en charge l'entièreté de l'aspect fonctionnel et sécuritaire de l'État,
que reste-t-il à construire pour la société ?
Il reste l'essentiel, justement. L'ultime forme de souveraineté, celle qui ne peut être ni codée ni importée, ce sera notre capacité à maintenir notre empathie collective et notre patrimoine immatériel. C'est exactement le bouclier que des initiatives comme Nostalgia tentent de forger face à l'hyper-automatisation du monde.
C'est une réflexion brillante pour clore cette analyse détaillée. Il est fascinant de constater, au fil de ces 60 pages, que les autoroutes numériques que nous bâtissons avec tant d'efforts perdront tout leur sens si notre propre humanité oublie d'y voyager.
Une belle image de fin.
Un grand merci à toutes les personnes qui écoutent cette exploration en profondeur pour avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Gardons notre esprit critique ouvert sur ces mutations et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session d'analyse.